Les marchandes de sable, juste après Dresseuse d'ours, les histoires brutes et non romancées d'une jeune médecin généraliste de Jadot. MDR, mot de pompier. Un homme de 52 ans n'a rien mangé. Un jour, vraiment, je poserai une bombe dans une maison de retraite. Ah non, zut, mince les petits vieux. Un jour, vraiment, je poserai une bombe dans les locaux administratifs d'une maison de retraite. À chaque fois, ils nous font le coup. À chaque fois, les trois dernières fois. 1. Elle a 84 ans. Sur la feuille de pompier, c'est marqué qu'elle vient pour malaise et occlusion. Ah ah ah, ça commence bien. Malaise et occlusion. Pourquoi pas douleur et cataracte ? C'est tout un poème. Les motifs de la détresse sur les feuilles des pompiers. Motif de la détresse, un homme de 52 ans fait un malaise. Une femme a mal au ventre. Un homme est trouvé sur la voie publique. Ma grande préférée, indétrônée à ce jour. Motif de la détresse, une femme de 42 ans est assise sur son canapé. Ça ne s'invente pas. Bref, celle-là vient pour malaise et occlusion. On a dû leur dire ça à la maison de retraite. Médicalisée, hein, la maison de retraite, avec des infirmières et tout. Dans l'enveloppe qui l'accompagne, j'ai une feuille avec la photocopie de sa carte vitale. Comme ça, je sais qu'elle s'appelle Marguerite. Dans l'enveloppe encore, ah non, rien. Les coordonnées de la maison de retraite, il faudrait utiliser les pages jaunes. Des antécédents, pourquoi faire? Le traitement en cours, c'est important. L'histoire de la maladie, pensez-vous? Elle viendrait pour fracture du col du fémur, je pourrais me dire que l'histoire de la maladie, c'est à tomber. Non, elle vient pour malaise. Le problème entre tous dont le diagnostic repose à 99% sur l'interrogatoire est l'histoire de la maladie. Et comme Marguerite m'a été livrée très, très démente, je ne peux pas trop compter sur elle pour me raconter ce qui s'est passé. Folle de rage, j'appelle, je tombe évidemment sur le gentil aide-soignant de nuit qui n'a rien vu mais qui a entendu dire qu'elle avait fait un malaise. Mais quel malaise ? Elle a dit « j'ai la tête qui tourne », elle est tombée, elle s'est cognée la tête, elle a perdu connaissance. Vous savez, moi, je suis de l'équipe de nuit. Je sais qu'elle a eu un malaise pendant le repas et qu'elle a glissé de sa chaise. Bon. Et son état habituel, c'est quoi ? Je veux dire, elle s'est désorientée que depuis la chute ? Je veux dire, elle est toujours folle comme ça ? Ah oui, ça oui, elle est un peu perdue tout le temps, vous savez. Bon, et cette histoire d'occlusion ? C'est écrit « occlusion » sur la feuille des pompiers. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre ? Ces dernières selles remontent à quand ? Vous pouvez bien me trouver la date de ces dernières selles dans son dossier ? C'est forcément écrit quelque part. De bonne volonté. Je vais voir et je vous rappelle. Non, ce n'était écrit nulle part. Alors dans le doute, hein, on fait un ASP. Oui, pour ceux qui suivent, l'occlusion fait partie des 3 ou 4 cas où l'ASP sert à quelque chose. Un scanner cérébral, un bilan bio, on a gardé Marguerite en observation 48 heures. Au service porte, toujours pour ceux qui suivent, bravo. Et on l'a renvoyé chez elle. 2. Il a 76 ans. Je ne sais plus pourquoi il est là. Dans l'enveloppe qui l'accompagne, j'ai la photocopie de sa carte vitale. Comme ça, je sais qu'il s'appelle Raymond. Et au miracle, une autre feuille. Qui ne me dit rien de ses antécédents, rien de son traitement, rien de l'histoire récente qu'il a amené ici. Par contre, je sais qu'on l'a changé à 12 et 16 heures, qu'il a eu un repas mixé à 11h30, qu'on lui a lavé les cheveux avant-hier et que la pédicure est prévue pour mercredi prochain. Je vous jure. 3. Elle a 78 ans. Elle vient, toujours d'après la feuille des pompiers, pour hypertension sévère et déséquilibre glycémique. Ce jour-là, miracle encore, j'ai une photocopie d'un compte-rendu d'hospitalisation de 1995 et la liste de ses médicaments. Non datée, la liste. Ça se trouve de 95 aussi. Je ne sais pas à combien était la tension chez eux, mais chez nous, à l'entrée, elle est à 14,8. On a vu plus sévère. Bon, voyons voir cette histoire de diabète. Je ne sais pas à combien était le dextro chez eux, mais chez nous, oui, il est élevé. J'épluche. Médicament qui sert à rien pour les œdèmes des jambes. Médicament qui sert à rien et qui est dangereux pour les troubles de la mémoire. Laxatif. Deuxième laxatif. Troisième laxatif. Bon, je suppose qu'elle est constipée. Traitement contre l'ostéoporose. Anti-hypertenseur. Ah, elle est hypertendue habituellement. On progresse. Antalgique. Médicament qui sert à rien pour les vertiges. Médicament aux plantes qui sert à rien et qui est dangereux pour les troubles dépressifs mineurs. Crème pour les escarres. Il y a un médicament pour le diabète ? Non, vraiment ? Parce qu'elle vient un peu pour déséquilibre du diabète, hein, à la base, je le rappelle. Elle est juste assez lucide pour me soutenir qu'elle prend du Diamicron et du Stagite depuis des années. Juste assez démente pour ne plus savoir si on les lui a donné ce matin. En appelant la maison de retraite, je tombe évidemment sur un gentil aide-soignant qui ne sait pas du tout si la liste de médicaments que j'ai sous les yeux correspond à son traitement du jour ou pas, et si elle a eu ou pas des médicaments pour son diabète ce matin, ni quelle dose elle a d'habitude. C'est merveilleux. En fait, j'ai beaucoup mieux que l'histoire de la bombe. Un jour, je vous jure que je le ferai. Je prendrai une épingle à nourrice, un bout de papier et un crayon, et je renverrai à la maison de retraite une petite dame épinglée à une maladie, lui donner des médicaments. Coucou, mot de patient. Elle, enceinte, nous pas vouloir bébé, pas pouvoir. J'aime beaucoup cette histoire. D'abord parce que c'est une histoire de chasse qui a toujours son petit succès facile dans les dîners plus ou moins mondains. Ensuite, parce que je suis pas mal fière d'avoir eu un peu de flair. Je suis de garde aux urgences de la maternité. Je m'occupe des urgences gynécologiques. Comprendre, je m'occupe des mycoses et des problèmes non urgents de toutes celles qui n'ont pas pu obtenir un rendez-vous avec leur gynéco avant un ou deux bons mois et des grossesses débutantes. Au-delà de 7 mois de grossesse, les patientes sont directement prises en charge par les sages-femmes qui gèrent la plupart des situations et m'appellent si elles ont besoin de moi, c'est-à-dire à peu près jamais. Ma collègue des urgences normales me passe un coup de fil pour me signaler qu'elle m'envoie une patiente de 16 ans, accompagnée de ses parents, qui consulte pour douleur abdominale, mais qui a quand même un retard de règles et semble-t-il un ventre assez rond pour être suspect. Elle ne se dit pas enceinte, ses parents ne la disent pas enceinte. Dans la salle d'attente, elle attire mon regard. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me dis « Oh, toi cocotte, je vais te prendre avant les autres ». Aux urgences gynéco, comme il s'agit en grande majorité de consultations sans rendez-vous et pas d'urgence urgente, prendre les gens par ordre d'urgence et non par ordre d'arrivée est assez rare pour être signalé. Quand elle enlève son manteau et son pull, effectivement, elle est très enceinte. Je commence à la questionner. C'est vrai, elle n'a pas eu ses règles depuis quelques mois. 4 peut-être, ou 6, elle ne sait plus exactement. Non, ça ne lui a pas paru bizarre de voir son ventre s'arrondir. Enfin, elle paraît quand même un peu gênée quand elle me répond. Je suppose qu'elle est coincée. Si elle se sait enceinte, c'est une menteuse. Si elle ne se sait pas enceinte, c'est une idiote. Le choix est grand et lien. Je pose encore quelques questions, mais j'arrête rapidement l'interrogatoire pour l'examiner. Fait encore assez rare pour être signalé, j'ai l'habitude des interrogatoires policiers interminables, qui me font remonter jusqu'aux antécédents de l'arrière-grand-tante et aux amygdalectomies d'il y a 27 ans. Je lui fais un toucher vaginal, on dit TV pour faire un grand genre style, et le temps suspend son vol. Bon, ok, je suis en tout début de stage, et je n'ai l'habitude que des tout débuts de grossesse, mais quand même, si je sens au bout de mes doigts seulement ce qui ressemble fort à une tête de BD et du col nulle part, ça s'appelle une dilatation complète, non ? Je décroche le téléphone. SOS sage-femme. La cavalerie arrive. TV est à tout va et confirme. Dilatation complète, complètement au travail, on passe FISA en salle d'accouchement. La rencontre avec les parents ensuite a été assez rigolote. Annoncée dans l'ordre. Oui, votre fille de 16 ans est enceinte. Elle est d'ailleurs passablement très 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 enceinte. Non, vous ne pouvez pas la voir maintenant, elle est en train d'accoucher là. PS, on n'a pas eu le temps de faire une écho. On n'a aucune idée de l'âge de la grossesse, donc aucune idée de l'âge du bébé et aucun moyen de prévoir s'il sera très en forme ou très prématuré en sortant de là. Allez, bisous ! Est un exercice d'improvisation de haute volée. Pour la fin de l'histoire, je signalerai que le bébé était une petite fille, un peu prématurée mais pas tant que ça, très en forme, et qu'elle est repartie chez elle accompagnée d'une maman pas si mal et de grands-parents un peu sous le choc mais néanmoins heureux de l'accueillir. Happy end, donc. Consternant. Mot de médecin. Tu demanderas une radio de contrôle pour la PTH de la 32. Consultation de traumato. J'accompagne mon interne qui assure les consultations. Beaucoup de post-op. On regarde les radios de départ, on regarde les radios de contrôle, on regarde la cicatrice qu'elle est belle, on regarde la mobilité des gens qu'elle va revenir petit à petit. Une très vieille dame attend sagement son tour sur son brancard dans le couloir. Enfin, sagement est un euphémisme. On dirait une petite momie. Elle fixe le plafond en silence, parfaitement immobile, les bras croisés sur sa poitrine, qui se soulève un peu de temps à autre, histoire de montrer qu'elle n'est pas tout à fait encore morte. Le tour de Madame Momie arrive. Son brancard est amené dans la salle de consulte, suivi de près par la secrétaire qui accourt paniquée, les bras chargés de deux énormes dossiers en carton qui débordent de partout. Parce que les dossiers au nom de Madame Momie, il y en a deux, Jeanne ou Bernadette. Sensiblement le même âge et que oui, c'est assez grave, mais pas trop, ajoute-t-il devant ce qui doit me servir de visage. La première idée qui jaillit dans mon cerveau malade. Oh mon Dieu, j'ai tué un patient. Je passe le staff autour de l'hypothèse en grand dialogue avec moi-même. Mais c'est pas possible, tu tiens des jambes au bloc, quoi. Comment on peut tuer quelqu'un en tenant sa jambe au bloc? Et si je m'étais mal lavé les mains? Et si j'avais à refiler une infection à un patient pendant une opération? Oui, bien sûr, et sur l'analyse bactériologique, il y a marqué infection mortelle à microbes des mains de l'externe, et tout le monde sait que c'est toi, idiote. La fin du staff arrive enfin, avec elle, le poids de mes responsabilités. Mon interne m'emmène dans un coin pour discuter de ma faute. Pas la mienne, en fait, de faute, il s'avérait. La faute à l'autre externe. Rien à voir avec l'histoire, moi. La veille, elle avait vu dans le service un patient du grand chef de service, qui voulait le joindre. Comme il était injoignable, elle avait pris un bout de papier et un crayon. Elle avait écrit « Je rencontre aujourd'hui votre patient, Monsieur Truc, actuellement hospitalisé dans le service à la chambre 14BZ3, qui souhaite vous contacter. » Et elle avait laissé le papier dans le tiroir à courrier du chef. Voilà, fin de l'histoire. C'était ça, le drame. C'était ça, mon patient mort, mon ostéite fulminante, ma septicémie mortelle, ma veuve éplorée. Une blouse grise s'était adressée directement au casier d'une blouse super blanche, sans passer par la cohorte de blouses indéterminées intermédiaires. Soulagement, ce n'était pas moi.